¡Hasta la victoria! ¡Siempre!
Les deux morts de Fidel Castro.
Silencio, por favor.
Proclamation du commandant en chef au peuple de Cuba. À cause des jours et des nuits de travail continuel, sans à peine dormir, ont donné lieu à ce que ma santé, qui a résisté à toutes les épreuves, soit soumise à un stress extrême et se brise. Cela m'a provoqué une crise intestinale aiguë avec un saignement permanent qui m'a obligé à affronter une opération chirurgicale complexe.
Année 2006, c'est cet été-là que Fidel est mort, une première fois. Un communiqué, lu par son secrétaire particulier, annonce alors qu'il passe le relais à son frère Raoul. À la fin de cette même année, Fidel n'apparaît pas aux festivités, qui pourtant avaient été retardées, de son anniversaire. Le transfert du pouvoir, de provisoire qu'il était, devient définitif. On est bien dans un processus de succession, mais un processus lent. Cette succession rend possible l'esquisse de transition que l'archaïsme des structures politiques et économiques de Cuba rend nécessaire. Peu à peu, le fantôme de Castro s'éloigne. Sa santé est un secret d'État, mais de temps à autre, on conduit de rares visiteurs officiels jusqu'à sa résidence où il a troqué le treillis pour le survêtement. Le directeur de la salle de presse du Vatican rapportera qu'il a posé au pape en visite dans l'île des questions un peu étranges sur la liturgie. Fidel aura survécu 10 ans à cet effacement et quelques mois au déplacement du président Obama venu dans l'intention de tourner la page des hostilités Washington-La Havane. En 2006, il disait que sa convalescence serait un combat. Le combat idéologique est perdu depuis longtemps, mais le pouvoir cubain peut dire que dans son combat biologique, Fidel aura survécu bien au-delà des limites que son temps politique lui avait imparties.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie d'Alexandre Hérault qui, en 2006 comme en 2016, à ces deux moments importants, se trouvait être au milieu des Cubains. Bonjour à vous, Alexandre.
Bonjour Jean.
Alors, vous avez fait beaucoup de séjours et longs à Cuba, où vous vous sentez un peu cubain. Mais si on revient à 2006, pour la première fois, vous n'obtenez pas le visa de presse à la suite d'un nouveau raidissement du régime en 2003 et vous décidez d'aller de l'autre côté, chez les Cubains toujours, mais à Little Havana, à Miami.
Et oui, puisque le journalisme Jean, comme dirait le grand spécialiste de Cuba à qui je dois beaucoup, l'ancien correspondant de l'AFP Bertrand Rosenthal, qui est assez présent à ce micro parfois pour parler de cette île, et ben là-bas, à Cuba, le journalisme est un art minimaliste. Et alors, force est de constater qu'en 2006, les autorités de La Havane ont rechigné à me livrer un visa de presse, me permettant d'aller sonder les réactions des Cubains qui en effet pouvaient imaginer que leur leader Maximo était peut-être mortel. Il faut comprendre que j'avais couvert ce printemps noir que vous évoquez, c'est comme ça qu'on l'appelle. La
2003.
Voilà, c'était la plus importante vague d'arrestation dans les milieux de la dissidence interne et des journalistes dits indépendants, que le pouvoir castriste, ça aussi vous l'ignorez pas, nomme les mercenaires à la solde de la CIA. Alors il m'avait fallu 3 ans plus tard, redevenu à mon tour sin visa, aller à Miami simplement pour sonder la réaction à 90 000 nautiques sur les côtes de Floride de ces Cubains. Et là, le témoignage que l'on va entendre, ce premier témoignage, c'était l'exergue d'ailleurs d'une série de 4 heures documentaires sur France Culture, c'est Ramon Cernuda. C'est un artisan du dialogue, assez impossible entre Miami et La Havane, on les nomme les dialogueros. Il est marchand d'art. C'est un lapsus peut-être révélateur. Mais il avait été victime en 93, c'est pour ça que je pense à ça, de petites bombinettes qui étaient placées dans sa galerie, parce qu'il avait, au crime de lèse-majesté, exposé des artistes vivants encore dans l'île, là-bas. Et c'est lui qui nous accueille.
Bienvenidos a Miami. Bienvenidos a este parque jurásico.
Bienvenue à Miami. Bienvenue dans ce parc jurassique.
En donde todo puede suceder.
Où tout peut arriver.
Inclusive encontrarnos a especies ya.
Et même trouver des espèces déjà disparues dans le reste de la planète.
Esta comunidad nuestra.
Notre communauté s'est manifestée le jour de la nouvelle de la maladie du gouvernant Fidel Castro de manière primitive. Et pour certains d'entre nous, ça a été une cause d'embarras de voir les grandes scènes de liesse dans les rues. Après l'annonce de la maladie d'un être humain,
indépendamment de ce que pueda ser, como decir, tu has sido para muchos de nosotros un adversario político.
En dehors du fait qu'il puisse être ou avoir été un adversaire politique.
Me recordaba los aquelarres que solamente había visto antes.
Cela me rappelait ces visages du sabbat des sorcières dans le tableau de Goya.
Tenían la intención, en mi
opinión, selon moi,
de la óptica y la realización del artista.
Avait pour but de montrer, d'après la réalisation de l'artiste, la cruauté que sont capables d'atteindre certains êtres humains.
Que la joie ne soit pas toujours contenue, c'est tout de même compréhensible, parce que quand, comme vous, Alexandre Hérault, on va voir les familles d'exilés, chacune a une histoire souvent terrible à raconter.
C'est pour ça que Cernuda, dans ce qu'il nous dit, son accueil là peut apparaître un peu caustique, voire ironique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce qu'on appelle parfois la salle d'attente là-bas, qu'est Miami, en fait, cohabitent toute une série de profils de Cubains qui sont loin d'être tous des exilés. Certains là-bas y sont nés. C'est cette communauté de Cubano-Américains que courtisent d'ailleurs à chaque élection présidentielle là-bas les candidats. C'est cette communauté qu'on a tendance à trop caricaturer, où on peut trouver effectivement toutes sortes de récits. Et tous ne sont pas des récits qui sont teintés de haine et de rancœur aussi forte que celle que l'on peut avoir en tête.
Mais dans cette émigration, comme pendant la Révolution française, dans l'émigration qui était au dehors de nos frontières, il y a des couches politiques stratifiées, très, très complexes. Vous avez rendu visite en 2006, nous sommes, je le rappelle, toujours en 2006, au numéro 3 de la Révolution. Il y avait le Che, il y avait Fidel, mais il y avait aussi le commandant Hubert Matos, qui était à la tête d'une colonne, la colonne numéro 9, qui s'était illustrée pendant les combats. Il était là à Santiago au moment de la libération de Santiago. Il a fait partie du cortège qui a fait son entrée triomphale à la Havane quelques jours après, au début de 1959. Sauf que il a démissionné dès le 20 octobre 59, la même année, au motif qu'il voyait disparaître tous les contre-pouvoirs de médiation et de représentation. Il commence cet entretien avec vous en disant un extrait de sa lettre de démission qui lui a valu 20 ans de prison parce qu'il a été aussitôt soupçonné d'être un auteur potentiel de coup d'État.
Je te demande, non en tant que commandant Hubert Matos, mais comme un simple camarade de la Sierra. Tu te souviens, l'un de ceux qui était prêt à mourir en exécutant tes ordres. Que tu accèdes à ma requête le plus tôt possible, me permettant de retourner chez moi avec un statut de civil, sans que mes fils aient à apprendre ensuite par la rue que leur père est un déserteur ou un traître. Je souhaite tous les succès pour toi, pour tes projets et tes désirs de révolutionnaire, et pour la patrie. Désir et devoir de tous. Bien à toi, ton camarade, Hubert Matos.
Que saviez-vous, Hubert Matos, au moment où vous présentez d'ailleurs pour la seconde fois cette démission? Qu'aviez-vous déjà découvert de sa personnalité?
J'étais alors convaincu que c'était un tricheur, qu'il avait les mains sales, qu'il était intéressé par le pouvoir à vie, en s'alliant aux communistes.
Ou de alguna manera,
d'une certaine manière, il était en train de devenir un dictateur. Il avait supprimé le Premier ministre, le président, pour le remplacer par un autre, qui était une marionnette. Je voyais donc un individu qui voulait dominer complètement le pouvoir. Dès le début de l'année, j'ai été en désaccord avec Fidel et Raoul sur la manière par laquelle ils appliquaient les procès révolutionnaires, parce qu'il me semblait que c'était une façon d'instaurer une terreur depuis le pouvoir.
Salut au commandant Matos,
qui est mort.
Fidel a remporté une victoire biologique sur lui aussi.
Oui, Il est mort, il avait 86 ans, c'était en 2014, à la fin de l'entretien qu'il m'avait accordé en 2006. Il disait qu'une des choses qu'il maintenait quand même en vie, c'était peut-être de voir disparaître avant lui celui qui avait été son compagnon d'armes. Là, c'est intéressant d'entendre Hubert Matos, parce qu'on se rend bien compte que dans le potage cubain, c'est comme ça aussi qu'on appelle Miami, cette salle d'attente, eh ben, il y a toutes les composantes, c'est-à-dire qu'on trouve parmi les vétérans que pas des vétérans anciens mercenaires de la baie des cochons en 61, par exemple, cette tentative ratée de récupérer Cuba par les gens entraînés. Et...
Enfin, on pourrait dire d'une autre manière, Alexandre Hérault, que la ligne de partage entre les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires a été fixée par le Che et par Fidel à l'intérieur des révolutionnaires.
Mais vous en savez certainement beaucoup plus que moi, Jean.
Mais non, ce que je constate, c'est que quand vous allez à Miami... Vous avez un spectre d'opinions en face de vous extrêmement large. Enfin bref, on parle plus librement à Miami. Et à Miami, on est davantage politisé qu'à Cuba.
Ça, c'est votre constat. Et c'est vrai qu'à Cuba, le silence est de rigueur et l'opposition n'existe pas. L'opposition interne a du mal à être audible. Et c'est bien là tout le problème. Le monopartisme étant de mise, nous n'aurons pas ce spectre que vous évoquez, qu'on voit à Miami, évidemment.
Alors, une personne parle... Pas tant que ça, elle s'est pas exprimée, je crois, dans la presse écrite depuis 2013, mais là c'est en 2006 que vous la rencontriez, au moment de ce séjour, pendant que se déclarait la maladie de Fidel Castro. Elle était exilée à Miami depuis 1992, c'est l'une des filles de Fidel
illégitime,
Castro.
Donc.
Oui, parce que c'est difficile de faire le compte des enfants de Castro et des différents lits d'où sont nés ces enfants, mais on n'est pas
c'était
là pour ça.
C'était un sujet véritablement tabou dans l'île, la vie privée du leader Maximo.
Alina Fernandez.
Vous aviez fini par croire, au fil de toutes ces années, que votre père était immortel ?
Non, je n'ai jamais pensé à ça. Non. Il n'y a pas d'immortalité. La révolution, premièrement, est personnalisée en lui. Et la seconde raison, c'est qu'on ne peut pas marcher en arrière dans l'évolution sociopolitique du planète, non ? Et puis on était le second pays d'Amérique latine en 1956-59. Pourquoi va-t-on être une pièce archéologique, non ? Dans la mer des Caraïbes, ça ne tiendra pas.
Alors qu'est-ce qui va se passer ? Je ne veux pas vous transformer en prophète,
Alina Fernandez. Non, je ne le suis pas. Je pense que ça prendra plus ou moins de temps. Et ce sera peut-être très désorganisé au début, mais peut-être que nous inventerons cette forme de démocratie dont je parle qui est encore à être inventée. Enfin, j'espère qu'on fera quelque chose d'utile parce qu'il y a 3 millions de Cubains qui vivent en dehors de Cuba et qui vont arriver peut-être à aider avec leurs expériences, leur langue, leurs connexions. Il faut d'abord rétablir la société civile et ça va prendre un peu de temps. Il y a des choses qui peuvent faire peur, bien sûr, parce qu'il y a tout genre de personnes et d'ambitions dans la vie, mais il y a aussi beaucoup de la propagande à Cuba contre les gens de l'exil et je pense que ça, c'est peut-être le 90% du problème. C'est les gens à Cuba pensent qu'on va aller leur enlever leur maison et ils sont affairés à ça. Des maisons qui seraient mieux si on les...
Rasées, là.
Oui, il faut tout reconstruire.
Alors maintenant que la perspective du retour approche, les émigrés, qu'imaginent-ils pouvoir apporter à Cuba ?
C'est vrai que ce sont ceux qui vivent en Floride du Sud, donc que vous appelez les immigrés, ce sont cette composante-là incontournable du futur, plus ou moins proche donc de l'île, vers lesquelles sont tournés tous les regards. Ils savent qu'il faudra reconstruire l'économie cubaine qui est exsangue. Et d'ailleurs, puisque vous êtes friand de petites anecdotes...
À condition qu'elle soit exacte.
Elle était exacte, puisque l'un d'entre eux me répondait en 2006, toujours, quand je leur demandais, mais je crois qu'on pourrait faire la chose aujourd'hui, le même exercice, accoudé au comptoir de ce célèbre restaurant où on mange bien, le Versailles, au milieu des photos jaunies d'une Havane des années antérévolutionnaires. l'un de ceux qui buvaient donc accoudé à ce comptoir un petit café. Quand je lui posais la question de savoir combien de temps il leur faudrait pour reconstruire la Havane, eh ben, en posant la tasse d'un café vite avalé, il me répondait le temps d'un café sitôt, voyez-vous. Ça dit beaucoup sur cette volonté, évidemment, de reconstruire, de faire partie du futur de l'île, même si pour en face, ça reste un fantasme, ça reste un étendard qu'ils brandissent pour justement en repousser le spectre de ce retour.
Alors, musique, vous dites que c'est moi qui y tiens. Ben non, ce sont les Cubains qui tiennent beaucoup à la musique. Premier morceau.
Très malheureux lors du deuil national de 9 jours. Oui. Sans musique. Oui.
Premier morceau qui vient de Miami, qui date des années 2006, qui est repris cette année 2016. Voilà. Il date d'avant 2006.
Oui, je crois que c'était même du début des années 90. C'est l'hymne de l'exil. Ça s'appelle Mitière et c'est Gloria Estefan.
Et après, on passera sur l'autre versant, c'est promis.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Deuxième versant, novembre 2016, maintenant La Havane, où Raoul Torres spontanément a écrit une chanson à la gloire du leader Maximo, aussitôt après sa mort, et immédiatement dans l'urgence, un collectif d'interprètes l'a reprise spontanément.
Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Hombre, aprendimos a saber de eterno, así como lo pide Jesucristo.
Que se le tributará al fundador de la revolución cubana, hasta la victoria, siempre.
Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Alexandre Hérault, qui se trouvait là, quel heureux hasard, au milieu des Cubains, maintenant à La Havane, cette fin de novembre 2016, quand Raoul Castro, le jeune frère de Fidel, 85 ans seulement, annonçait la disparition du leader Maximo et l'organisation d'un convoi funèbre dont vous nous parlerez tout à l'heure à travers l'île. Heureux hasard.
C'est là où je me dis que je suis effectivement, comme vous l'annonciez, devenu cubain. C'est ce que je disais dans ce livre que vous avez eu la gentillesse d'évoquer, écrit en 2006.
Et qu'on ne trouve plus nulle part, mais qui s'appelle, c'est un joli titre, Chronique d'une mort annoncée.
Et en constatant que cette annonce de la mort supposée du commandant me bouleversait à un point que je n'avais jusqu'à présent pas vécu, 10 ans plus tard, en allant là-bas, sur place, pour préparer un pilote pour une future hypothétique web radio pour le réseau des alliances françaises, vous savez que l'alliance française, la plus grande du réseau des 800 alliances, se trouve à Cuba, je tombe aussi stupéfié, hébété que j'avais pu l'être, tétanisé, en apprenant ce que j'avais presque oublié, qu'il était cette fois-ci officiellement mortel.
Et aux premières heures après l'annonce de Raoul, vous voilà dans une grande avenue, il est à peu près minuit, ce qui explique sans doute l'élocution de tel ou tel de vos jeunes interlocuteurs.
Connaissez la noticia?
Non, moi non.
Pas de réponse.
Hola. ¿Qué se sabe de la noticia?
Bueno, estamos tristes, todo el mundo triste aquí. Estamos de luto por el comandante. Una gran persona. Fue nuestro mayor idealista para nosotros y para el mundo todo. Y estamos tristes aquí.
Fue la mayor pérdida que pueda tener fue la mayor pérdida que puede tener, vamos a decirte, de ahora mismo aquí, de pueblo cubano.
A nivel mundial ahora mismo, eso es lo más triste que estamos, y estamos conmovidos aquí.
¿Cómo vous l'avez appris, vous?
Bueno, estábamos
on était en train de faire la fête.
Ils suspendieron la
fiesta, ils ont tout suspendu d'un coup.
Et
on est maintenant tous en deuil ici.
Que
Dieu lui accorde la gloire, car il a fait ici beaucoup de choses très bonnes.
Il
nous a aidé beaucoup.
Quel âge as-tu?
J'ai 21 ans et je suis encore étudiant.
Et toi?
Moi j'ai 19 ans.
Qu'est-ce qui va se passer?
Ça, je ne sais pas. Ça va être une grande curiosité.
Voilà. ¿Qué usted sabe de esa noticia?
¿Qué sabe-vous de cette nouvelle?
Mire, esa noticia me cogió yo estando en medio de una
je l'ai appris au milieu d'une fête. Et c'était plutôt dur à entendre. C'était notre commandant, tu m'entends?
Nuestro guía. Quizá ya no tenía sus funciones en el gobierno, pero
peut-être n'avait-il plus son rôle au sein du gouvernement, mais c'était notre symbole, tu comprends? Et ce fut plutôt dur. En ce moment, précisément, je me sens assez troublé par cette nouvelle compliquée.
Quand tu dis compliquée, c'est pourtant une nouvelle qui n'est pas une surprise. Chacun pouvait avoir en tête que cela pouvait arriver un jour.
Mais la mort arrive à tout le monde, monsieur. Mais comme je vous le disais, il était notre symbole, vous comprenez. Personne n'est jamais prêt à perdre un grand symbole. Les grands événements vous surprennent toujours. Et ça, c'est un grand événement. Je suis sûr que nous allons voir le monde entier réagir.
Le monde entier réagir. Cuba est habitué à ce que le monde la regarde. Alors, comme vous n'avez pas pu approcher toujours des podiums, Alexandre Hérault, les journalistes sont contrôlés à Cuba. Moi, j'ai vu le président du Nicaragua, celui du Venezuela, celui de l'Équateur, celui du Mexique, celui de la Colombie, celui du Honduras, celui du Panama, mais personne de niveau important du Chili et de l'Argentine, plusieurs dirigeants et vieux pachydermes d'Afrique noire, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe, mais aussi l'Afrique du Sud, et le seul dirigeant important de son rang parmi les membres de l'Union européenne, Alexis Tsipras. Et puis, si on parle des Français et des amis professionnels de Cuba, en France.
Il y avait, alors, je sais pas ce que vous appelez amis professionnels, c'est des gens comme Maradona, j'imagine.
Ah oui, déjà. Oui, bah oui, Maradona, oui, bon, oui, 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 oui.
Mais alors, c'est
pire. Il a sur sa jambe gauche un tatouage fidèle.
Et puis, non, mais il y avait tous ceux aussi qui étaient peut-être là aussi parmi les amis de Cuba, comme Una Liutkus, par exemple, qui n'était pas invité officiel, mais juste témoin de cette page. Una,
alors ça, c'est un vieux copain à vous.
Bah, c'est celui qui m'a vendu mon premier aller-retour, pour la Havane en 90. Il était à la tête de l'agence Havana Tour de Paris. C'était le seul spécialiste à l'époque de cette destination. Il y avait juste 100 000 touristes qui fréquentaient l'île à cette époque-là. Aujourd'hui,
Una,
ils sont plus de 2 millions.
Una, c'est un drôle de nom pour un Français.
Il est franco-lituanien.
Remarque idiote.
Franco-lituanien. Il connaissait et chérissait l'île puisqu'il avait rencontré Fidel en 1964, lors de son premier voyage avec des contingents de jeunes militants de gauche.
Alors on va entendre son récit.
Ces militants, il y avait par exemple des figures comme Bernard Kouchner, voilà.
Oui.
Entendons son récit.
Franchement, j'ai été réveillé, je me rappelle, à 3h51 par un SMS de France qui m'a averti que Fidel est mort. Donc je me suis réveillé, je me suis pas rendormi, je n'avais pas accès à Internet de ma chambre d'hôtel. Et donc j'ai un peu revécu mon passé, mes premiers voyages à Cuba. À partir 1964, mon premier voyage, 1964. Et moi, ce qui m'a attiré à Cuba, c'est à l'occasion du premier... C'est toujours cette histoire de souveraineté nationale. C'est à l'occasion du premier voyage à Cuba que j'ai fait au mois d'août 64. Donc, quand on a eu l'occasion de discuter avec Fidel, il demandait aux jeunes autour de lui, qu'est-ce que tu fais, étudiant en médecine, machin truc. Et moi, je glisse que je suis lituanien. Et alors, figurez-vous qu'il m'a expliqué que Staline avait commis beaucoup de crimes, mais une des choses les plus graves qu'il avait faites, c'était d'avoir échangé la souveraineté des pays baltes avec Hitler. Et je dois dire que ça m'a à peu près bouleversé, tu vois. Et depuis, chacun a ses raisons de devenir fidéliste. Donc moi, je suis devenu fidéliste à cette occasion-là. Parce que tout seul, je pouvais rien faire contre le rideau de fer et l'occupation soviétique de la Lituanie. Et un petit détail, Alexandre, aujourd'hui encore, dans l'encyclopédie d'Internet de Cuba, si tu écris le mot Lituania, parce que je suis de parents lituaniens les deux, mais né en France, tu regardes Lituanie, il y a écrit que ce pays a été occupé par l'URSS en 1940. occupés. Et ça, c'est très important.
Enfin, juste un petit détail, mais je ne vais pas froisser votre camarade, mais 4 ans après cet entretien avec Fidel, Fidel salue officiellement l'occupation de Tchécoslovaquie par l'URSS. Mais ce qui demeure et ce qui fédère les amis professionnels de Cuba, c'est l'idée de David contre Goliath.
Mais Cuba, avant Castro, avant 59, c'était quoi? Genre une île à l'anguille dans les vapeurs de rhum et les veloutes de cigares aux mains de la mafia.
Alors, il n'allait pas parler du bordel des États-Unis.
Ben, si, il fallait l'évoquer, parce qu'aujourd'hui, cette
c'est pas un bordel assiégée, aujourd'hui.
La prostitution est autre chose aujourd'hui. Le fait prostitutionnel n'est pas le même. La forteresse assiégée, ce qui reste évidemment dans la tête de beaucoup de gens, et ce qui rend Cuba éminemment sympathique et qui mérite encore pour beaucoup d'être suivi, c'est cette résistance à l'impérialisme américain.
On est
David
pas là pour
contre
parler...
Goliath est une dialectique qui fonctionne encore à plein.
On n'est pas là pour parler plaisir, on est là pour parler deuil. Donc, les tout premier jour, incinération, sans pompe catholique d'aucune sorte.
Hein, il semblerait que non. Religieuse. Même si Fidel était, vous l'avez su et vous l'avez noté, attiré, posé des questions étranges lors de la dernière visite du pape.
Sur la liturgie.
Voilà.
Mémorial José Marti, ça c'est une liturgie révolutionnaire. Liturgie révolutionnaire, place de la Révolution, nul geste séditieux.
Mais il fallait éviter tous les gestes séditieux.
Il n'y en a pas un qui a protesté.
Le silence était d'or, était d'ailleurs assez étonnant le lendemain, le 26 au matin, novembre. La Havane semblait vraiment dans une torpeur étonnante. Et alors, l'appareil policier s'était mis en place. On a évidemment arrêté un jeune graffeur, un street artiste, comme on dit, qui s'appelle El Sexto, parce qu'il avait graffité en disant « Fidel s'est foué, il s'est en allé ». Et juste avoir marqué ça en dessous d'un grand hôtel cubain, lui a valu le chemin de la prison, et pour dégradation de biens publics, évidemment.
Et puis, ce qu'on attendait, c'était la caravane annoncée dès le 25 par Raoul Castro, une sorte de grand convoi funèbre qui allait éviter l'autoroute centrale et cheminer vers Santiago. Toujours le récit d'Una Liutkus.
Les Cubains adorent les chiffres. Le 26 juillet, effectivement, c'est une date, mais par exemple, Fidel s'est embarqué pour Cuba à partir du Mexique avec Che Guevara et 80 et quelques guerriers pour débarquer ici à la pointe. C'était le 25
novembre.
25 novembre 1956. C'est-à-dire exactement 60 ans jour pour jour par rapport à sa mort. Et donc on observe quand on regarde ce qui se passe à Cuba, il y a toujours avec les dates une sorte de...
Fétichisme.
Oui, de fétichisme, parce que il faut se rappeler de Fidel, on l'appelait El Caballo. Le cheval, parce que la loterie traditionnelle, chaque fois quand tu rêvais de quelque chose, tu rêvais d'une tortue, alors tu devais jouer le 17 par exemple. Tu rêvais de ciel bleu, tu devais jouer le 22. Tu rêvais d'un cheval, tu jouais le 1, parce que le 1 c'est le premier numéro. Et Fidel c'est El Caballo.
Il y a une symbolique très forte autour donc du parcours, et surtout, ce qui ne vous échappe pas, Una, c'est de rendre à la population la possibilité de saluer son leader une dernière fois sur presque l'étendue de... Enfin, l'ensemble de l'étendue du territoire.
Toute l'étendue du territoire de Cuba, je pense que ça a été décidé dans un sens d'unification. Le gouvernement et Raoul veulent unifier le peuple cubain. Et donc, Fidel, qui n'a jamais apprécié La Havane, il n'a jamais aidé La Havane. En fait, il n'a jamais rien construit en dehors des écoles d'art plastique qui sont une pure merveille dans les années 59-60. Mais La Havane a été un peu abandonnée. Tout a été fait pour améliorer un peu mieux la vie des provinciaux cubains. Et donc, Fidel, symboliquement, retourne par le chemin de la route de la victoire. 60 ans après, il retourne à Santiago, où il va être enterré à côté de José Martí, l'apôtre de la patrie du 19e siècle.
Qui est pour l'instant le seul à qui a été véritablement dédié un culte de la personnalité, de la pensée. Et on peut pas redouter, mais peut-être imaginer qu'à côté du buste de Marti, très rapidement, vienne maintenant se poser celui de Fidel, une fois qu'il n'est
ça,
physiquement...
Je ne sais pas, je veux dire, l'histoire nous le dira dans les années prochaines, mais en tout cas, aujourd'hui, le parallèle est évident entre Marti, fin du 19e siècle, qui meurt au combat, vers 1888 ou quelque chose comme ça, et Fidel qui meurt après avoir, on va dire, triomphé de 11 présidents américains.
Et voilà le départ de la caravane,
les plans larges sont pris par des hélicoptères, ce qui évite peut-être les plans trop étroits sur le public, au cas où il se passerait quelque chose. Alors, la tombe à Santiago, il y a marqué Fidel, il n'y aura pas de statue ?
Contrairement à ce que, évidemment, l'interrogation que je posais à Una, Liutkus, Raoul a officiellement décrété qu'il n'y aura pas de buste officiel, aucune statue, donc Fidel sera indéboulonnable d'une certaine manière, c'est assez intelligent, aucun nom de rue, aucun nom d'avenue ne portera son nom.
Donc on ne pourra pas abattre sa statue et son sang, je fais la conclusion,
c'est ça, vous appartient.
À votre place, coulera dans les veines des Cubains.
Vous savez que Fidel, pour les Cubains, ce que j'ai pu entendre, n'est mort que physiquement, pour la plupart d'entre eux, sur l'île.
Je vous arrête dans la description d'une liturgie de résurrection. Florent Beauvalet à la technique, Valérie Aestaray à la réalisation, et tous ces reportages étaient évidemment signés Alexandre Hérault. Merci à vous. Au programme de La Tête au Carré avec votre camarade Daniel Fievet, Alexandre.
Oui, bonjour Jean Lebrun, et je salue Alexandre Hérault avec lequel j'ai eu le plaisir à faire. Oui,
mais dépêchez-vous parce qu'on a de la publicité, il paraît.
Alors ce sera pollution au menu de La Tête au Carré.
Ça tombe bien.